Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce second épisode du podcast consacré aux MARPA, des résidences seniors uniques Les MARPA, un programme sonore de la MSA et de la Fédération nationale des MARPA. Ce podcast a pour objectif de mettre la lumière sur les maisons d'accueil et de résidences pour l'autonomie, les MARPA donc, et de vous donner les clés à vous qui nous écoutez d'une compréhension globale de ces établissements à part dans le parcours de la personne âgée. Pour ceux qui découvrent ce podcast, je rappelle que le concept MARPA a été créé par la MSA dans les années 80. L'idée, accueillir comme à la maison des personnes âgées autonomes dans des structures à taille humaine et ouvertes sur l'extérieur. Aujourd'hui, on compte un peu plus de 200 MARPA sur le territoire, et à l'heure où le focus est mis sur l'importance du bien vieillir dans notre société, le modèle MARPA, labellisé par la MSA, est en plein développement. Dans le premier épisode de ce podcast, nous avons brossé à gros traits les conditions à réunir pour lancer un projet de MARPA, et présenté pour cela les différentes étapes d'un tel projet. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au fonctionnement d'une MARPA une fois l'établissement ouvert. Comment s'organise la gouvernance d'une MARPA? Comment assurer un taux d'occupation optimal de l'établissement? Quel accompagnement des gestionnaires au quotidien? Comment réussir l'animation de ce lieu de vie? C'est à toutes ces questions que nous allons essayer de répondre dans cet épisode, grâce aux éclairages et témoignages de trois invités que j'ai le plaisir d'accueillir. Sophie Desforges, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de la MARPA Les Jardins de Saint-Laurent.
Exactement.
À Milly-la-Forêt, dans l'Essonne, en Ile-de-France, un poste que vous occupez depuis 2009.
Exactement, c'est ça, oui.
À vos côtés, Sandra Griesinger, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous dirigez depuis son ouverture en 2018 la MARPA La Dunette. C'est
tout
à Huningue, dans le Haut-Rhin, en Alsace. Bienvenue à vous.
Merci.
Et enfin, Jean-Christophe Billoux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, je le rappelle, responsable de la Fédération nationale des MARPA. On vous a déjà entendu dans le premier épisode de ce podcast. On va s'intéresser tout de suite pour commencer à la gouvernance des MARPA, en essayant d'être les plus clairs et pédagogiques possibles. La gestion d'une MARPA se répartit principalement entre deux fonctions, celle de responsable d'établissement et celle de président ou présidente de l'établissement ou de l'association gestionnaire. Quels sont les rôles de chacun? C'est ce qu'on va essayer de voir tout de suite. Sandra Griesinger, j'avais envie de vous donner la parole pour commencer. Vous êtes directrice d'une MARPA, comme je viens de le préciser. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste votre fonction?
Oui, alors déjà, chaque jour est différent, mais en tout cas, je dirais que le plus important dans ma fonction, c'est l'humain. L'humain dans l'animation de la maison, dans toutes ses composantes, donc pour les résidents, et le management d'équipe. Il y a une petite équipe qui tourne 24 heures sur 24. Donc la plupart de mon temps est quand même consacré soit aux résidents, soit à l'équipe. Bien évidemment, après, il y a tout le lien avec les partenaires, la gestion administrative et financière, mais également la programmation de sorties, d'activités, et tout de même aussi la gestion d'une cuisine que nous faisons chaque jour sur place, donc l'équipe, pas moi-même bien évidemment, mais avec la définition des menus, la gestion du stock, etc. Mais toujours accompagné par l'équipe, parce qu'un responsable en MARPA seul ne fait pas grand-chose finalement. Donc l'équipe est très importante.
Sophie Desforges, vous êtes présidente donc, d'une association gestionnaire d'une MARPA, celle de Milly-la-Forêt. Justement,
oui.
Quelle est la différence avec le responsable ou la responsable d'établissement?
Alors, je dirais que c'est un binôme qui est très, très important. Il faut qu'il fonctionne bien. On est là pour soutenir la responsable, la directrice, comme on l'appelle, et soutenir aussi les équipes s'il y a des besoins. Accompagner également, faire un peu le remplacement quand il y a la responsable est en congé, être présent. Et puis, oui, je dirais que c'est vraiment le soutien et l'accompagnement de tous.
Vous êtes présidente donc depuis combien d'années?
Je suis présidente depuis... L'association a été créée en 2009, la structure a ouvert en 2013. Donc depuis toutes ces années-là, en fait. Ça va bientôt faire 10 ans et c'est vrai que c'est toujours du plaisir.
C'est un rôle qui vous prend beaucoup de temps au quotidien?
Ça prend du temps, mais en fait, on ne le voit pas passer. Et c'est tellement enrichissant pour comme rôle que voilà, ça se passe bien.
Jean-Christophe Billoux, je vous laisse la parole. Ces rôles sont clairement définis dans le label MARPA?
Oui, absolument. Alors, le label MARPA, c'est un ensemble de critères. Et parmi ces critères, il y a le critère de gouvernance. Et dans ce critère de gouvernance, il y a des rôles, une répartition des rôles bien assumée entre l'équipe, le personnel, le responsable en tête, bien sûr, et puis les gestionnaires, qui sont gestionnaires employeurs, Et donc, les MARPA sont gérés soit par un centre communal d'action sociale ou un autre organisme public, ou alors par une association à but non lucratif ou un organisme professionnel privé.
Alors justement, là, on a autour de la table les deux exemples. Sandra Gensinger, vous êtes dans le cadre d'une MARPA publique gérée par un CCAS. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le montage administratif, organisationnel?
Alors la ville de Huningue est porteur du projet, donc propriétaire également du bâtiment. Et le Centre communal d'action sociale, le CCAS, est gestionnaire de l'établissement. Donc contrairement aux MARPA associatives privées, on est dans la catégorie des agents territoriaux, en fait, fonctionnaires d'une collectivité territoriale.
Et donc qui a la charge équivalente à celle de Madame Desforges, du coup, dans votre cas?
Alors, le maire est toujours président du CCAS. Et dans notre cas, donc, c'est l'adjointe au maire, déléguée aux affaires sociales, et qui a vraiment une délégation pour la gestion donc, de la dunette et qui, clairement, est mon binôme au quotidien.
Voilà. Et vous y voyez un certain avantage à ce montage public, à cette gouvernance publique?
Alors aujourd'hui, oui, peut-être plus qu'au départ, il y a 4 ans, la dunette finalement, donc la MARPA, a été peut-être le premier projet, le premier grand projet donc senior. Et aujourd'hui, est l'assise d'autres développements politiques au niveau des seniors donc de la ville. Donc il y a vraiment, vraiment un intérêt. Et puis aussi par rapport aux politiques publiques, par rapport aux départements notamment, les liens se font entre élus aussi pour réfléchir ensemble l'avenir, en fait.
Et au quotidien, vous, ça veut dire que vous avez aussi ce relais-là de tout l'ensemble de ces fonctionnaires territoriaux?
Oui, d'autant plus qu'on a des services supports, le service ressources humaines, les finances, le service social, pour justement gérer la résidence aussi sur des choses très précises. Donc on a vraiment un lien avec la ville, les agents de la ville de Huningue, même les espaces verts, le service technique, voilà.
Sophie Desforges, alors vous êtes dans un cas totalement différent avec une petite association gestionnaire, je crois.
Voilà, nous, on est association de gestion, donc moi, j'ai la chance d'avoir aussi un trésorier à côté. Mais ça ressemble, alors c'est un peu différent par rapport à chez Sarah, mais moi, je suis élue de la ville aussi, donc ça a été une volonté de la ville de construire cette MARPA-là. Donc j'ai suivi ce dossier depuis 2009 et la ville est toujours partenaire de la MARPA. C'est elle qui est propriétaire des murs, donc même s'il y a une gestion d'association de gestion, on a quand même des liens très très étroits avec la commune.
Excusez-moi, l'association gestionnaire est très importante. Est-ce qu'il y a besoin finalement d'avoir beaucoup de monde au conseil d'administration dans cette association pour que ça fonctionne?
Je dirais qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de monde. Il faut avoir des gens qui veuillent le faire et qui veuillent suivre la MARPA. Parce que c'est vrai que c'est du quotidien. Alors, le quotidien, c'est la responsable. Mais c'est vrai que les responsabilités sont là et sont partagées, ce que disait M. Billoux. C'est vrai que les embauches, l'accueil des résidents, le choix de la vie au quotidien, c'est quand même aussi du partage avec la responsable. On ne peut pas faire tout et il faut vraiment... Faut vraiment faire très attention, quoi.
Jean-Christophe Billoux, tout ce qui concerne les ressources humaines, c'est président ou directeur?
Ce qui concerne les ressources humaines, ça dépend évidemment. Ouais. Pour les recrutements, évidemment, il y a le binôme qu'évoquait Madame Desforges, le binôme responsable et gestionnaire employeur. Et s'agissant du management de l'équipe, en revanche, il revient au responsable ou à la responsable, effectivement, de l'assumer sous la direction, bien sûr, du gestionnaire employeur.
Vous souhaitez ajouter l'une ou l'autre?
Oui, non, mais c'est ça, quoi. C'est vraiment la responsable, la directrice qui gère au quotidien et la présidence, l'association de gestion qui chapote le tout et qui fait qu'il faut que tout aille bien, quoi, en fait.
Jean-Christophe Billoux, on parle de gestion. Peut-être qu'il faut préciser quand même qu'on se trouve dans du logement social.
Absolument. Et donc, ça implique d'une part, effectivement, que l'ensemble des gestions des MARPA sont non lucratives. D'autre part, loyers, charges et services sont plafonnés et encadrés et le résident, dans le cadre du logement social, peut bénéficier de l'APL.
On va passer peut-être à un sujet qui va intéresser particulièrement, je pense, les porteurs ou futurs porteurs de projets de MARPA. C'est la question de la pérennisation de l'établissement. Je veux dire l'importance d'installer durablement la MARPA dans le territoire, ce qui suppose évidemment d'abord une bonne gestion. Et une bonne gestion, c'est aussi un taux d'occupation optimal. L'une des conditions essentielles pour y arriver, Jean-Christophe Billoux, c'est de faire connaître l'établissement, c'est bien ça?
Oui, absolument. Alors, il y a une manière de le faire connaître dès le début, dès l'amorce du projet, puisqu'il y a une enquête de faisabilité qui est réalisée, qui porte, c'est une enquête, hein, questionnaire qui est adressé à l'ensemble des seniors, en échantillon des seniors du territoire. Et puis, évidemment, les élus, les professionnels de santé sont associés à ce projet. Et alors, une fois que l'établissement est ouvert, il appartient à celui-ci, mais celui-ci, bien sûr, dans le cadre d'un projet d'action sociale du territoire, hein, c'est-à-dire la MARPA est insérée dans un réseau territorial, hein, social, médico-social, politique aussi, eh bien, il lui appartient effectivement de continuer à donner une bonne image auprès des habitants de ce territoire. Quand je dis les habitants, c'est à la fois les seniors, mais aussi leurs familles et bien sûr l'ensemble des habitants d'un territoire.
Alors on va écouter tout de suite Bernard Bréneau, qui est référent MSA de Franche-Comté, qui va nous parler justement de l'importance de bien communiquer.
La première chose, c'est de travailler sur la notoriété de la MARPA, de la faire connaître sur son territoire, de rencontrer les élus, de relayer des informations sur la MARPA. Quand on crée le projet, quand le projet se monte, c'est déjà de diffuser un maximum d'informations sur l'établissement qui va émerger. Et puis après, c'est de se faire le relais le plus possible au travers des médias que l'on peut avoir à notre disposition. On essaie d'avoir un partenariat et de faire un mini-lobbying local auprès de tous les acteurs qui maillent le territoire, que ce soit les professions médicales ou paramédicales, les structures d'aide à domicile, les travailleurs sociaux, et puis au-delà de ça, créer des passerelles avec les autres établissements, EHPAD et les travailleurs sociaux qui peuvent y travailler pour pouvoir permettre un circuit de la personne âgée qui soit cohérent entre son domicile et le tout EHPAD. Donc la MARPA vient s'insérer dans ce circuit.
Sandra Kreinzinger, comment on s'y prend? Alors là, Bernard Bréneau donne des pistes, mais vous, concrètement, est-ce que vous avez des exemples de terrain à nous rapporter?
Oui, alors nous, on a ouvert il y a 4 ans maintenant, donc ça se passe par des soirées, par exemple, avec des professionnels qui, comme les médecins notamment, les infirmiers, les pharmaciens ou d'autres, qui travaillent en journée, hein, donc le soir est souvent le moment propice. Mais je dirais que c'est au quotidien également prendre le temps à répondre correctement au téléphone, prendre le temps de donner toutes les informations, de faire des visites, même quand la liste d'attente, à un moment donné, elle est complète, continuer à communiquer et surtout se faire connaître ce qu'on appelle les prescripteurs, notamment les soins de suite et de rééducation, même les hôpitaux, les kinés, parce que finalement, beaucoup cherchent des solutions à un moment donné quand on est plus fragile, et se faire connaître, c'est super important. Bien sûr, ça passe aussi par de la communication, brochure, etc. Mais ça se passe vraiment sur le terrain, à prendre le temps dès qu'il y a une question ou des questions à y répondre.
Donc vous, quand vous êtes en lien avec un professionnel de santé, par exemple, c'est l'occasion justement d'expliciter un peu le projet MARPA quand il n'est pas connu?
Oui, tout à fait. Souvent, par rapport au public qu'on peut accueillir, le degré d'autonomie notamment, mais pas que, souvent on est amené à expliquer ce qu'on peut proposer, jusqu'où, peut-être des fois dans quelle limite, et puis prendre l'opportunité peut-être d'un appel pour inviter la personne à visiter la résidence quand elle sera sur le secteur. Parce que quand même, par expérience, on se rend compte qu'il faut passer la porte de la MARPA et on sent très rapidement l'atmosphère, on sent très rapidement comment les personnes peuvent y vivre. Et pour les professionnels, très rapidement aussi comprendre les atouts et les limites en termes d'autonomie.
Sophie Desforges, le meilleur moyen donc de communiquer, c'est d'ouvrir les portes?
C'est d'ouvrir les portes. Il faut que la structure soit ouverte à tout l'extérieur, en fait. Il ne faut surtout pas en faire une structure fermée. Et d'accueillir, alors l'accueil est très très important, que ce soit les partenaires, les médecins, enfin tous ceux qui viennent, là, il faut qu'ils ressortent avec l'image d'une MARPA qui est belle et de résidents qui se sentent bien, et ça c'est vraiment le plus important.
Jean-Christophe Bouillou, vous souhaitez ajouter quelque chose?
Oui, par rapport effectivement à l'image de l'établissement, il faut rappeler qu'une MARPA, c'est un établissement qui est situé entre le domicile, maintien à domicile, et l'établissement médicalisé. Donc il appartient effectivement à la MARPA d'entretenir cette image tout au long de son fonctionnement. Et je dirais une deuxième chose, c'est que effectivement, dans les MARPA sont accueillies des personnes âgées qui sont autonomes, mais aussi un certain nombre d'entre elles qui sont fragiles. Alors quand on dit fragile, effectivement, qui ont un ralentissement de leur activité physique, mais aussi qui souffrent d'une grande solitude. Et cette solitude, ça induit effectivement des pathologies, alors parfois la dépression, parfois la dénutrition. Et les MARPA ont les moyens, dans le cadre d'un projet de vie basé sur la préservation de l'autonomie et la prévention, de faire regagner de l'autonomie à ces personnes. La fragilité, c'est un aspect, une attitude qui est réversible.
On va parler tout de suite de la question du projet de vie qui est au cœur des établissements MARPA. Il y a tout ce qui relève de l'administratif, hein, on l'a évoqué, le budget, les commandes, les ressources humaines, et il y a le projet d'établissement et les projets de vie de chacun des résidents qui sont deux choses un peu différentes. Expliquez-nous peut-être, Sandra Grenzinger, en quoi ça consiste.
Alors déjà, le projet de vie, il y a vie à l'intérieur. On peut avoir 70, 80, 90 ans, on continue à vivre. Et tout est basé là-dessus. Et quand on vit, on a des envies, on a des besoins, on a même des rêves. Et on est là aussi, il y a un projet collectif. Hein, la MARPA, c'est un projet collectif, c'est un groupe. Mais il y a aussi des individus. Et ces individus-là, chaque personne, chaque résident, ont des envies. Et donc, dans le cadre des projets personnalisés, qui certes sont réglementaires, on doit les mettre en place. Mais c'est surtout l'opportunité pour toute l'équipe, finalement, de s'attacher à la personne et de voir ce qu'on peut faire. Alors, il peut y avoir des exemples d'un résident qui a aussi envie d'arrêter de fumer, par exemple, qui va nous confier ses cigarettes et qui va nous dire, bah voilà, tous les jours, vous m'en donnez que deux ou trois. On a des personnes qui ont envie de se sentir utiles, on va leur donner les moyens de bricoler des choses pour justement le collectif dans la MARPA. On a eu chez nous, par exemple, un résident qui a confectionné pour le coup, pour le personnel, des cale-portes pour pas qu'on ait à se baisser, mais qui a bien détaillé un petit cœur, voilà, pour l'équipe, aussi des potagers, etc. Le projet personnalisé, c'est aussi donner l'opportunité à des personnes qui se trouvent de s'assumer dans la collectivité en couple, parce qu'ils ont envie de poursuivre leur vie. Voilà. Ça, c'est vraiment à nous d'y réfléchir. Ça ne demande pas forcément toujours des moyens financiers, mais déjà une écoute et d'y croire. Et dernier petit exemple peut-être, on avait une résidente qui rêvait d'un vol en montgolfière. Donc grâce à un partenariat avec la fédération, on a pu lui faire vivre avec des lunettes de réalité virtuelle. Mais voilà, leur faire plaisir, le goût de vivre, de continuer à vivre et d'avoir des projets. Et on peut avoir n'importe quel âge, on a des projets, toujours.
Ça, c'est très formalisé dans la vie de l'établissement ou c'est au fur et à mesure finalement entre ce que vous faites entre ce que vous font remonter les assistantes de vie ou le personnel ou vous-même en dialoguant, est-ce que c'est finalement très informel ou c'est très formalisé ?
Alors, je dirais, premier niveau de réponse, c'est réglementaire. Donc, réglementairement, on vous dit ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, etc. Dans la vraie vie, c'est très informel. Effectivement, on est censé les rédiger dans les 6 mois après l'arrivée du résident. Mais finalement, c'est des opportunités d'une discussion, d'un besoin, quand on apprend à se connaître, quand ils nous font confiance aussi pour discuter de choses. Donc, je dirais que oui, c'est encadré. Parce que c'est réglementaire, mais c'est surtout des opportunités, ouais, surtout.
Sandra Grenzinger, vous évoquez les projets de vie de chacun des résidents. Il faut préciser que l'implication des résidents dans la vie de la maison fait partie totalement du projet MARPA.
Oui, tout à fait. Donc le mot maison, déjà, c'est peut-être le mot le plus important, c'est leur maison avec un grand M. Et comme à la maison, on peut participer ou on doit peut-être des fois participer en fonction de ses envies, de ses capacités. Donc ils peuvent par exemple aider pour la cuisine, alors pas dans la cuisine, hein, mais voilà, pour les légumes, faire des tartes, la salade de fruits par exemple. On a des personnes qui peuvent plutôt par exemple s'occuper du potager, aller l'arroser. D'autres chez nous qui s'occupent du lapin aussi, parce qu'on a un petit flocon où les résidents peuvent s'occuper, avoir une place, être acteur aussi de sa vie et finalement ça travaille l'estime de soi, le sentiment d'utilité et celui-là certainement que c'est le plus important au quotidien.
Il y a aussi l'implication des familles, mais ça vous l'entendrez sans doute dans le 3e épisode du podcast qui est donc une immersion dans une MARPA qui donnera justement à entendre la place notamment des familles.
Les familles sont vraiment chez elles aussi en fait, oui tout à fait.
Quant au projet collectif, Sophie Desforges, je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose qu'on définit en amont par l'association gestionnaire avant que la MARPA soit lancée ? Le projet collectif, c'est quoi ?
J'ai du mal à vous répondre à ça parce qu'en fait, le projet collectif, pour nous, le principal, c'est que les résidents soient bien. Et nous, d'une équipe, que l'équipe soit à l'écoute de chacun. C'est à la fois du collectif et à la fois du personnel. Donc, c'est vraiment cette alchimie-là qu'il faut trouver. Et c'est peut-être pas si simple, mais on essaye de faire des actions, évidemment, qui soient collectives. tout en respectant chacun. En fait, c'est ça, c'est la liberté de chacun aussi et l'écoute de chacun qui est important.
On va revenir tout à l'heure sur l'ouverture de la MARPA sur le territoire, mais j'aimerais qu'on passe d'abord par la case référent MARPA MSA, puisque dans le cadre donc du réseau national des MARPA, c'est un interlocuteur incontournable qui vient en appui donc des directeurs et présidents de MARPA. J'ai justement demandé à Bernard Bréneau de nous préciser les missions du référent MARPA, qui est justement sa fonction à lui. On va l'écouter tout de suite.
Le rôle du référent va être d'accompagner la MARPA, les associations de gestion qui gèrent les MARPA ou les structures gestionnaires, les accompagner dans la gestion de tous les jours, répondre à leurs questions, les aider à respecter les critères du concept MARPA, du label, et de répondre à toutes leurs questions. Ça va être des questions soit de législation pure, quand on a vu par exemple avec toutes les périodes de confinement, quelles sont les mesures à mettre en place, relayer les informations que la FN MARPA nous adresse ou adresse au MARPA, expliquer, faire une veille juridique, leur dire quand est-ce qu'elles peuvent indexer les tarifs, quand est-ce que les décrets paraissent, parce qu'ils ne le voient pas toujours. C'est leur faire des petites notes comme ça, de synthèse, de rappel, au fur et à mesure que les éléments d'information nous arrivent. En fonction des questionnements qu'ils peuvent avoir, j'essaie de les recenser, de voir quelles sont les récurrences et après de trouver, soit auprès de la FN MARPA, soit auprès de prestataires régionaux, le meilleur interlocuteur pour pouvoir essayer de leur apporter des réponses, les formations, ou les supports nécessaires qui leur permettront d'avoir toutes les réponses à leurs questions.
Est-ce que le référent MARPA MSA est là aussi pour conseiller quand il s'agit de travaux, de rénovation?
Oui, alors on peut venir en appui, soit pour étudier la faisabilité des travaux qui sont envisagés, soit pour dire par exemple au propriétaire, attention, vous avez des obligations, on doit respecter certaines choses, par exemple la création d'une zone rafraîchie l'été ou réchauffée l'hiver avec des clims réversibles, des choses comme ça.
Jean-Christophe Billou, quelque chose à ajouter par rapport à ce rôle du référent MSA pour que ceux qui ne connaissent pas du tout cet univers aient bien ça en tête?
Oui, je dirais qu'effectivement le référent ou la référente MARPA, c'est un peu effectivement le pivot d'un réseau local, régional, départemental de MARPA. Il est effectivement l'animateur ou l'animatrice de ce réseau, c'est-à-dire il organise fréquemment des rencontres inter-MARPA avec bien sûr les gestionnaires, mais aussi évidemment les responsables et puis l'ensemble du personnel d'une MARPA. Le deuxième rôle, et c'est peut-être le plus important, c'est le rôle de la garantie de service, de qualité de service rendu aux usagers, c'est-à-dire aux résidents, à leurs familles et à l'ensemble des seniors d'un territoire, pourquoi pas. Et ça, c'est un rôle très important et ça nécessite effectivement d'avoir une formation à l'évaluation. Et puis, le dernier rôle qui est aussi très important, surtout en ce moment peut-être, c'est de pouvoir identifier les situations financières à risque pour éviter effectivement que les MARPA se retrouvent dans la difficulté financière.
Sandra Kinzinger, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez rencontré le référent MARPA? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui il y a un dialogue fréquent, quotidien? Et dans quel moment vous avez eu peut-être des expériences où vous avez eu besoin de cet appui plus particulièrement?
Alors la rencontre est particulière parce que c'était un collègue. J'étais référent MARPA avant d'être responsable de la résidence. Aujourd'hui, on travaille ensemble sur des projets communs à plusieurs MARPA, par exemple. Donc il assure un petit peu la synthèse des échanges, la coordination, la recherche d'informations pour tous. Il est également invité à nos comités qualité, à nos conseils de concertation, hein, donc avec l'élu MSA également, hein, qui est présent sur le territoire. Et effectivement, parfois, c'est un gain de temps quand il s'agit aussi de rechercher peut-être des précisions réglementaires notamment, parce qu'on a beaucoup de textes, on reçoit beaucoup de choses.
Donc c'est Bernard Bréneau fait allusion à cette veille juridique, ça, oui. C'est quelque chose d'important.
Oui, la veille juridique et aussi le réseau. Hein. Souvent, le référent MARPA va glaner dans le réseau des MARPA ou des MSA, justement, des informations, voire des retours d'expérience pour justement nous aider au mieux.
Sophie Desforges, même question par rapport au référent MARPA, c'est un acteur incontournable de votre rôle
oui,
de bénévole.
Oui, parce que c'est celui qui anime le réseau, et c'est vrai que c'est très très important, que ce soit pour les gestionnaires, parce que bah, ça nous aide, hein, toutes les formations qui peuvent être. C'est vrai que quand on parle de présidence ou de trésorier d'une MARPA, au départ, quand on commence, on ne sait pas ce que c'est. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir ces formations qui peuvent exister, et le référent est là pour les mettre en place. Et puis, il anime tout ce réseau-là. C'est une chance des MARPA d'être en réseau, que ce soit pour les gestionnaires comme pour les responsables. On a eu la chance de faire partir des résidents à Cabourg en village vacances pendant une petite semaine. Et ça, c'est le réseau qui a permis ça, quoi, en fait, avec la référente qui a pu animer et puis mettre en place ce voyage-là.
Jean-Christophe Pillon, on n'a pas encore trop parlé de la MARPA comme plateforme de services, mais il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur du MARPA, il y a énormément de services dont peuvent bénéficier tous les seniors, si je puis dire, du territoire.
Absolument. Et effectivement, on voit bien que notre réseau MARPA a tendance à évoluer et passe d'une logique d'établissement, donc de services, de prestations, hébergement proposés à 24 à 30 seniors du territoire, passer de cette logique-là à une logique de prestation et de service à l'ensemble des seniors d'un territoire. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est-à-dire, effectivement, la MARPA est ouverte à l'ensemble de ses seniors, effectivement propose, par exemple, de l'accueil à la journée, une personne vient déjeuner à la MARPA, participe aux animations, aux actions de prévention proposées par la MARPA, dîne même d'ailleurs parfois dans la MARPA, et raccompagnée ensuite chez elle, et il y a même des MARPA qui vont beaucoup plus loin, et qui raccorde le service de téléassistance de la MARPA au réseau de téléassistance du domicile de la personne.
Sandra Kinzinger, vous avez des exemples de terrain justement par rapport à cette possibilité de service ouvert sur le territoire ?
Oui, dès l'ouverture de la résidence, l'élu en charge justement des affaires sociales au démarrage s'était rendu compte que, par exemple, un homme âgé va manger au restaurant seul, une femme plus rarement. Et donc, très rapidement, on a mis en place un nouveau contrat de prestation qui s'appelle « Je déjeune à la dunette ». Et effectivement, ce sont des seniors isolés, donc de la commune, qui viennent manger avec nos résidents, rompre l'isolement autour du repas et partager un repas équilibré notamment et gourmand bien évidemment aussi. Et c'est important parce que le portage de repas, vous êtes quand même seul devant votre assiette. Donc la faim, elle n'est pas la même non plus. Ces résidents-là, effectivement, peuvent participer à des activités. On peut aussi leur proposer de venir avec nous en sortie, notamment, et également quand des actions de prévention se mettent en place à la résidence, que ce soit pour la mémoire, la santé visuelle ou d'autres choses, ils sont également conviés. Alors c'est très intéressant pour les résidents nos résidents, et les seniors à leur domicile, parce que finalement on est seul, même quand la famille passe plusieurs fois par jour, la journée elle est longue. Donc ça, c'est très, très important. Mais effectivement, l'idée, c'est de se dire qu'on accueille 24 résidents pour chez nous, mais qu'on peut faire bénéficier des services plus largement sur le territoire et d'être aussi un partenaire, un maillon avec d'autres. On a des résidents, par exemple, qui vont aussi en accueil de jour. On est là aussi pour compléter une offre au service de l'autonomie.
Il y a cette idée de créer toujours plus de liens sociaux, que ce soit entre seniors, mais aussi entre les générations. Je ne sais pas si vous avez des actions intergénérationnelles aussi à la dunette ?
Alors oui, on a en plus la chance d'avoir un multi-accueil juste à côté. Alors bien évidemment, autour des traditions du Saint-Nicolas, de Noël, de la galette des rois, c'est toujours des bons prétextes pour réunir les générations. Mais c'est également à l'ombre d'un arbre, assis sur un banc, avec la structure juste à côté, et les petits qui font exprès de lancer la balle aux résidents pour de nouveau qu'ils la renvoient. Les interactions ne sont pas forcément toujours cadrées, formalisées, mais il y a un réel intérêt entre les générations, c'est évident, oui.
Je voudrais qu'on écoute tout de suite de nouveau Bernard Brénaud qui nous parle de la MARPA comme instrument de territoire.
Le souci que nous avons, c'est d'avoir des MARPA qui sont vraiment un outil de territoire, qui sont là, qui sont plus une plateforme autour desquelles peut se positionner plusieurs personnes. Je vois par exemple pas mal de MARPA sur le Haut-Doubs organisent par exemple la messe et les voisins viennent pour s'inscrire à l'office. C'est assez convivial et ça recrée une atmosphère de quartier. Donc, oui, elle joue vraiment le jeu de, de l'inclusion et de l'ouverture sur le territoire.
Oui, c'est un exemple parmi d'autres. Sophie Desforges, ça vous fait réagir?
Oui, ça me fait réagir. En fait, quand vous parliez de plateforme de service, moi, j'appelle ça de l'ouverture. Donc, c'est pour ça que le terme faisait un peu, enfin, m'interpellait un peu. En fait, l'ouverture de la MARPA, elle se fait sur tout le territoire, sur la commune. C'est, on vit dans la commune et on vit avec la commune. Donc, des ateliers mémoire ouverts à l'extérieur avec des seniors de l'extérieur, ça se fait à la MARPA. On a le conservatoire de musique qui se fait aussi avec des auditions qui se font à l'intérieur de la MARPA. Donc il y a un brassage automatique. Donc c'est pour ça, moi, ça me parle plus d'ouverture que de plateforme, en fait. Et des repas se font aussi, évidemment, avec des seniors qui viennent, évidemment, déjeuner. Il faut vraiment penser une MARPA comme faisant partie intégrante d'un territoire, d'une commune. C'est l'imaginer autrement, c'est pas possible. Enfin, pour moi, c'est pas possible.
On va revenir pour terminer à cette idée et au rôle essentiel du réseau. Hein, on l'a évoqué un petit peu. L'importance du référent MARPA de la caisse locale LMSA, c'est une chose. Et il y a aussi tout le réseau national pour chacune des MARPA. Jean-Christophe Billou, vous pouvez préciser finalement ces deux échelles.
Oui, le réseau MARPA est un réseau, on va dire, composite. C'est-à-dire qu'il y a une tête de réseau qui est la Fédération nationale des MARPA, qui est chargée d'apporter effectivement du conseil juridique, de l'expertise financière aussi, à la fois sur les projets, sur le fonctionnement des structures, en appui évidemment des référents de caisse MSA. Puis il y a aussi un autre rôle de la fédération, c'est de nouer les partenariats nationaux, alors à la fois avec effectivement des financeurs, hein, qui peuvent, par exemple, nous avons des financements historiques de la Fondation Bruno et du groupe Agrica, qui financent à eux deux plus d'une centaine de projets qualité de vie des MARPA, portés par les MARPA chaque année. Et puis il y a d'autres, évidemment, partenariats que nous avons noués au fil du temps, par exemple l'Agence nationale du chèque vacances, pour le départ en vacances, effectivement, à la fois des résidents de MARPA, mais aussi de certains seniors qui sont sur le territoire de cette MARPA. N'oublions pas non plus la CNAV et les CARSAT qui financent aussi les projets qualité de vie des MARPA. Et puis bien sûr, ensuite, il y a aussi le propriétaire de la marque MARPA, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, qui est garante effectivement du label et de son évolution. Et puis bien sûr, les caisses mutualité sociale agricole avec les référents MARPA, mais aussi les élus MSA qui siègent obligatoirement, que ce soit dans une MARPA publique ou privée, dans l'organisme gestionnaire des MARPA. Et puis enfin, évidemment, les MARPA qui sont évidemment les structures les plus importantes de ce réseau.
Merci d'avoir brossé ce tableau rapide du maillage territorial. J'aimerais juste qu'on ajoute pour terminer une petite précision par rapport aussi à l'émulation inter-MARPA, parce qu'on a parlé des rencontres inter-MARPA, mais il y a plein de projets chaque année qui permettent finalement d'aller toujours un peu plus loin et dans l'innovation notamment et de proposer des choses. Je vais laisser tout de suite la parole à Bernard Breno qui va nous en dire quelques mots.
Les MARPA, effectivement, sont sollicités pour répondre à l'appel à projet partage qui permet aux MARPA de monter un projet, un dossier, en partenariat, par exemple, pour partage avec les maisons familiales rurales, pour emmener les aînés, des résidents des MARPA, en vacances sur la base de l'intergénérationnel. Alors, c'est pas des vacances qui vont aller se passer de l'autre côté de la France, mais on essaie comme ça de pouvoir leur changer leur quotidien. Voilà.
Nous arrivons déjà au terme de ce podcast. Merci à vous trois d'être venus éclairer nos auditeurs sur le fonctionnement des MARPA aujourd'hui. Et j'en profite pour signaler donc que deux autres épisodes sont disponibles dans cette série. L'un sur les conditions à réunir pour lancer une MARPA, ça s'adresse tout particulièrement aux élus qui se poseraient des questions. Et l'autre sur la vie au quotidien d'une MARPA, donc un reportage enregistré dans le Finistère. Merci à tous d'être venus autour de cette table. Merci.
Merci.
Des résidences seniors uniques, les MARPA, un programme sonore de la MSA et de la Fédération nationale des MARPA. Production et prise de son, Catherine de Copet. Coordination, Françoise Joyeux-Lessieux. Retrouvez les deux autres épisodes de ce podcast sur votre plateforme de streaming préférée.